question de ce matin, c'est de se demander où trouver la joie. Et où trouver la joie, justement, on a un passage dans l'épître de Philippiens, donc c'est Paul qui a écrit à Philippe et qui va parler justement de cette joie. Mais avant ça, ouais, j'aimerais qu'on se pose cette question à nous-mêmes. Où trouve-t-on notre joie? Et dans cette fête qui est Pâques, est-ce que notre joie est bien fondée sur ce qui est durable, une joie qui est vraiment fondée? Et parce que voilà, notre joie pourrait être sur quelque chose, fondée sur quelque chose d'éphémère. Et justement, je voulais vous partager cette citation qui m'a marqué, une citation très forte de Steve Jobs. C'est un PDG de la marque Apple qui fait des téléphones et des ordinateurs. Un milliardaire qui, à la fin de sa vie, a dit une phrase assez forte. Il est décédé en 2011, je crois. Et il a dit, à la fin de sa vie, « J'ai atteint le sommet du succès dans les affaires. Aux yeux des autres, ma vie a été le symbole du succès. Toutefois, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. Enfin, ma richesse n'est rien de plus qu'un fait auquel je me suis habitué. » En ce moment, allongé sur le lit d'hôpital et en me remémorant toute ma vie, je me rends compte que toutes les éloges et toutes les richesses dont j'ai été si fier ont été transformées en quelque chose d'insignifiant devant ma mort imminente. » Citation assez forte, hein. On s'est dit que cet homme, il avait peut-être accompli toutes les choses que l'homme rêve d'accomplir. Il avait la sécurité, l'argent, mais aussi l'accomplissement personnel. Ce gars très intelligent a réussi à faire à inventer des choses extraordinaires. Il avait l'approbation, l'amour des gens. Mais pourtant, il va dire que sa joie n'était pas si suffisante. Il va dire qu'il va avoir de la joie, mais il va dire quelque chose de fou, que c'était pas forcément une joie finalement qui l'a satisfait au-dedans de lui, quoi. Et à côté de ça, j'aimerais vous parler de ce passage dans Philippiens 3. C'est vraiment un contraste assez fort, parce que Paul, à l'inverse de Steve Jobs, il n'avait pas la sécurité, il était en prison. Et il écrit à des chrétiens en Philippe, et il va les encourager, il va leur parler de la joie. C'est assez fou, quoi. Paul, il était sûrement dans une situation où il vivait le rejet, il était dans une prison, il a été condamné parce qu'il partageait sa foi, donc il était persécuté à cause de sa foi. Et plutôt que de se plaindre, plutôt que d'écrire aux chrétiens en disant « S'il vous plaît, essayez de me sortir de là », il écrit un épître de joie. C'est assez fou. Il va parler d'une joie qui ne dépend pas de circonstances, une joie qui est accessible dans n'importe quelle circonstance. Et la question qui va on va être amené à voir cette question, où trouver notre joie. Et je vous propose qu'on lise ce passage, donc, qui est au chapitre 3, verset 17. Paul, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs que je désire tant revoir, vous êtes ma joie et ma couronne. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Ce passage est fort et moi je le lis avec une passion où Paul il veut vraiment encourager les chrétiens à mettre notre joie dans les bonnes choses. Et en fait, on va voir que Paul montre qu'il y a une vraie joie lorsqu'on s'attache ensemble à la vie éternelle offerte en Jésus-Christ. Et on le voit tout d'abord au début, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs ». Alors ça peut paraître un peu prétentieux comme phrase, voilà, « Imitez-moi ». Mais plus tard, Paul il dira « Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ ». En fait, il prend en compte l'idée que nous, êtres humains, on est influencés en voyant d'autres personnes, d'autres comportements qui sont autour de nous. Il met en lumière la chose que nous avons besoin en fait de modèles. Nous avons besoin de personnes autour de nous qui nous inspirent. Et ça pose un peu cette question, est-ce que vous avez des modèles? Est-ce que nous avons des modèles? Est-ce qu'on est conscient qu'on est influençable par rapport aux gens qui nous entourent? Le comportement des gens qui nous entourent a un impact sur notre manière de voir la vie, de trouver aussi là où est notre joie. Et Paul, du coup, va dire, essayez de trouver donc, des gens qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en vous. Mais on va voir plus précisément quel est le type de personne, en quoi ces modèles-là mettent leur joie. C'est ce qui va suivre. Et il va dire, donc en effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. En fait, ici, Paul nous montre qu'il y a une joie qui pourrait nous éloigner de Dieu. On pourrait être des ennemis de la croix de Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup se conduisent comme ennemis de la croix de Christ. Mais en fait, on le voit dans ce passage, il dit « Ceux qui sont ennemis de la croix de Christ, en fait, c'est ceux qui ont pour Dieu leur ventre. C'est ceux qui ne pensent qu'aux réalités de ce monde. » En fait, il va pointer ce réflexe que l'être humain a de toujours être centré sur lui-même. C'est comme si le fait de, à chaque fois, de regarder quels sont mes besoins, où j'en suis, toujours à se regarder quelque part, on fait de nous-mêmes notre propre Dieu. Et il pense qu'aux réalités de ce monde, il n'y a pas une vision de l'éternité, il n'y a pas une vision de ce qui est spirituel, il n'y a pas une vision de ce qui est qui concerne Dieu, tout est terrestre. Les ennemis de la croix ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Si on se préoccupe que de cette vie, en fait, à quoi sert la croix de Christ? C'est cette question qu'il nous pose, Paul. Si on se préoccupe que de notre vie, à quoi sert la croix de Christ? Il y a bien Blaise Pascal un jour qui a dit « L'être humain n'ayant pas pu guérir de la mort, de la misère ou de l'ignorance, il s'est avisé pour se rendre heureux de s'empêcher d'y penser. » Je trouve cette citation très forte, c'est que c'est vrai, en fait, si on regarde bien, l'être humain, il est dominé par la mort, la maladie, parfois par des choses qui nous dépassent, et on ne veut pas y penser, parce que si on y pense, ça nous met face à une réalité trop difficile, et pour être joyeux, on essaye de ne pas y penser. Et là, dans cette épître, Paul, il essaye de nous montrer que, en fait, si on regarde la vie comme elle est terrible. Parce que c'est vrai qu'il y a des belles choses, mais la mort fait partie de ce monde, la maladie aussi. Et quelque part, si on est tout le temps à penser la vie au temps présent, Carpe Diem par exemple, qui dit qu'il ne faut pas penser à l'avenir, finalement on se voile un peu la face et on n'est pas face à la réalité de la vie. Si on pense qu'aux réalités de ce monde, quelque part, on va finir comme un peu ce Steve Jobs, qui a vécu toute sa vie dans l'idée qu'il fallait courir après cette joie terrestre, mais qui, au fin de compte, quand il se retourne, il voit que cette joie, elle était fade. Et donc Paul nous dit, mais Si on continue comme ça, notre fin, c'est la perdition. Tout ça nous amène loin de Dieu. Et tout ça nous amène loin de Dieu dans l'éternité. C'est cette dimension que Paul met en avant, c'est qu'il y a l'idée que, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une éternité. Et où va notre âme? Est-ce qu'elle irait en enfer ou au paradis? Et Paul nous dit ça, dit, si on se préoccupe que de cette vie terrestre, est-ce qu'on a une chance d'aller vraiment au paradis? Ce passage nous montre que si la croix de Christ n'est pas importante pour nous, alors c'est la perdition qui tombe sur nous. C'est ce que ce passage dit. Moi, je me suis posé la question, est-ce que je me comportais parfois en ennemi de Christ, de la croix de Christ? Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je prends ma vie comme... la chose la plus préoccupante, c'est ma vie terrestre. Et là, en faisant ça, je ne suis pas en train d'être ennemi de la croix. Je me suis posé cette question. En fait, cette croix-là de Jésus-Christ qu'on fête à la Pâque, elle est là pour payer notre dette. C'est ce que Paul veut mettre en avant. Il dit, mais c'est fabuleux. C'est l'histoire d'un Dieu qui a vu notre misère, le fait qu'on était condamné à cause de notre orgueil, notre autosuffisance, notre volonté à vouloir vivre sans Dieu. Tout ça nous mettait une dette sur nous. C'était comme si on avait enfreint la chose pour laquelle on était créé, celle d'être en relation avec Dieu. Et Dieu a décidé de payer cette dette à notre place, cette condamnation à notre place. Et c'est ce qui est grandiose, c'est ce que Paul il veut mettre en avant. Il dit, mais regardez combien la croix de Christ est importante. Non seulement la croix, elle nous montre que Dieu nous aime, mais elle nous montre aussi qu'il y a une vie éternelle. Il y a un rachat que Dieu fait. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix nous montre pas seulement l'amour de Dieu pour le monde, mais il nous révèle aussi l'importance de se préoccuper de notre éternité. Il y a une quantité illimitée de péchés, et Dieu a choisi de faire un sacrifice d'une personne qui est illimitée, lui-même, pour payer tous nos péchés, toutes nos fautes. Et c'est grandiose, Dieu a pris notre place. Dieu nous sauve, Dieu veut nous sauver, chacun de nous. Alors, quelle place a cette croix dans notre vie? Est-ce que c'est juste pour notre vie terrestre qu'on considère cette croix de Christ? Ou est-ce que c'est vraiment en perspective de l'éternité? Moi, je crois que ça change tout. Pour illustrer cette idée, imaginez que un de vos amis que vous aimez beaucoup est endetté. Il a une dette de 200 000 euros, quelque chose d'impossible à rembourser. Et vous qui avez pendant des années économisé et acheté votre maison, vous décidez, tellement que vous aimez cet ami, de vendre votre maison et de donner l'argent à votre ami pour qu'il rembourse sa dette. Imaginez cet acte complètement fou. Vous le faites, mais ce qui se passe, c'est que une semaine après, vous revoyez votre ami et votre ami vous annonce que en fait, il n'a pas remboursé sa dette, mais il a dépensé tout l'argent que vous lui avez donné. Et il l'a dépensé dans des plaisirs et dans le poker. Et voilà, il a tout dépensé sans rembourser sa dette. Comment vous seriez vis-à-vis de cet ami? En fait, c'est un peu la même chose que Dieu fait à tout être humain. Il a prévu de payer cette dette. Il l'a fait à la croix. Il rend disponible ce cadeau de cette dette qui nous amenait en enfer. En fait, en la payant, il nous ouvre un cadeau immense de l'éternité où on est dans sa présence, où on vit une vie qui est nouvelle, une restauration. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau qui nous a offert? Ce cadeau a coûté cher à Dieu, il a coûté la mort de Christ sur la croix.
Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de cette croix? Qu'est-ce qu'on fait de cette cadeau, de cette vie que nous avons ici? Est-ce que nous investissons pour payer cette dette, pour miser sur cette nouvelle vie, ou est-ce qu'on la gaspille?
Et c'est ce que la suite du passage nous dit. Paul il dit que quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. En fait, Paul utilise ici une image qui était très, très connue de l'époque parce qu'il était citoyen romain et il dit, il sait que pour les gens, le citoyen romain, ça voulait dire des privilèges. Ça voulait dire que tu as des droits, que tu as le droit d'avoir des terres, d'avoir l'accès à plein de privilèges. Et il dit, mais nous, on a le même système que les Romains, sauf que c'est dans le ciel. Le droit de cité dans le ciel, c'est comme si vous aviez, quand vous mettiez votre confiance en Jésus-Christ, vous placez votre vie en Jésus-Christ, on a une carte d'identité du ciel qui donne accès à des choses incroyables. Et qui donne accès à l'éternité, qui donne accès à la présence de Dieu pour l'éternité. Un lieu où il n'y a plus de souffrance, un lieu où il y a une parfaite harmonie, cette harmonie que nous cherchons tous au fond de nous. En fait, il dit, quant à nous, nous avons le droit de cité dans le ciel. Il replace toute cette joie qu'on cherche sur cette terre, il dit, mais finalement, ce qu'on recherche, est-ce que ce ne serait pas finalement ce droit de cité dans un lieu où règne l'harmonie? Et il dit, voilà notre joie, elle est fondée sur ce droit de cité, et aujourd'hui nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, le moment où nous serons vers lui, où nous serons avec lui. Et c'est ça, c'est cette attente en fait que Paul met en avant, il dit, voilà ce qui me rend joyeux, c'est l'attente. L'attente qu'un jour je serai auprès de Jésus. J'ai toujours souvenir de mon grand-père qui était aveugle de guerre et qui avait toujours cette chanson, sa chanson préférée, c'était « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ». Et je le chante souvent à mes enfants, puis je leur raconte. Et en fait, c'est beau parce que mon grand-père, il ne voyait pas. Il était aveugle et sa chanson préférée, c'était « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ». Il fondait sa joie et son espérance dans ce jour où il verrait Jésus. Paul avait cette joie-là aussi. Est-ce que vous avez cette joie qu'un jour vous verrez Jésus? Et ce jour-là, Paul nous dit, il transformera notre corps de misère, celui qui est entaché par le péché, qui nous pousse tout le temps à l'orgueil, qui nous pousse tout le temps à faire des bêtises, à faire des erreurs, à détruire nos relations. Il dit, ce jour-là, ce corps-là, celui qui est plein de maladies, celui qui nous rend dépressifs, qui nous pousse à la tristesse parfois, ce corps-là sera renouvelé, sera restauré. Et il sera conforme à son corps glorieux. Voilà ce que le Seigneur promet, en fait. C'est ça que la joie qui est décrite par Paul, elle se trouve dans une restauration par Dieu. Et c'est vrai, c'est une vraie joie. Moi, j'ai le souvenir des personnes qui m'ont montré cette joie-là quand j'étais jeune dans la foi. Je me souviens d'un missionnaire qui était parti au Tchad et qui avait 8 enfants, je ne sais plus combien d'enfants, mais en tout cas au moins plus que 6. Il est parti avec ses enfants. Moi j'étais toujours choqué parce que ses enfants étaient jeunes et ils ont grandi presque 20 ans là-bas. Je me dis, mais quelle folie d'aller en tant que missionnaire là-bas, avec sa famille, avec ses enfants, là où c'est la galère et tout. Mais en fait, ça m'avait choqué parce qu'il dégageait une joie incroyable. Ses enfants, ils n'ont pas raté leur vie. Ils avaient aussi découvert cette joie de Dieu. Et Paul, au début de notre passage, il disait, mais soyez mes imitateurs, regardez les gens qui misent sur l'éternité. Leur vie n'est pas si désastreuse. Elle est difficile, c'est vrai. Mais il y a une vraie joie qu'il y a dans une vie qui place sa joie dans la restauration. En fait, notre vie, bien souvent, elle pourrait se résumer comme ça. C'est ce qu'on voit, on est à zéro, et puis si tout se passe bien, on arrive à peu près vers 90 ans. Voilà, ça c'est ce qui représente notre vie. Et la plupart du temps, c'est vrai, nos préoccupations, nos soucis concernent tout ce qu'il y a en rouge. En fait, on est préoccupé par notre réussite dans scolaire, ensuite notre réussite professionnelle, puis familiale, puis on espère vivre une bonne vie pour espérer une bonne retraite, et puis une vie où on est tranquille pourvu qu'il ne nous arrive rien. C'est un peu notre objectif. Voilà, on en est là, on regarde cette vie-là, et toute la société nous pousse à regarder cette vie-là. Et là, Paul, dans ce passage, finalement, il nous aide à prendre un peu de recul. Il dit, regardez, si notre vie est vue par le regard de Dieu, on doit prendre un recul. On doit se dire, mais finalement, il y a cette vie, c'est vrai, mais même si on prend plus de recul, vous voyez, cette petite partie-là de cette vie, si je me recule encore, elle est microscopique. Et on passe tellement de temps à se préoccuper de notre vie qui est placée dans ce petit point rouge, et tellement peu sur le reste. Pour nos amis, pour nos familles, c'est vrai, on prie que tout se passe bien dans ce petit laps de temps où c'est rouge. Mais est-ce qu'on prie pour nos amis, pour nos vies, pour nos familles, pour l'éternité? Et là, Paul, il va donner un encouragement fort, et je trouve plein de compassion, plein d'amour. Il dira, c'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir. Il sait que, en fait, c'est précieux de s'encourager en Église. Il dit, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Il dit sûrement ça parce que Paul, c'est lui qui a évangélisé en Philippe, c'est sans doute lui qui a amené l'Évangile à l'église de Philippe, donc les Philippiens là, qui reçoivent cette lettre, il dit, vous êtes ma joie et ma couronne. En fait, ça me donne tellement de joie de savoir que vous serez dans l'éternité, que vous allez auprès de Dieu dans le paradis. Et il dit, vous êtes ma joie et ma couronne. Et il va donner cet encouragement, il va dire, tenez ferme dans le Seigneur, le bien-aimé. En fait, il sait que tout notre monde va dans le sens inverse de ce que l'Évangile amène. L'Évangile nous dit qu'il y a une éternité, il faut se préoccuper de notre éternité, là où on ira. Mais tout le monde fait l'inverse, il nous parle du temps présent, il nous dit de ne pas réfléchir, de ne pas regarder la mort, de fuir la souffrance, de ne pas regarder la vie telle qu'elle est vraiment. De nous donner des attractions, de nous donner des divertissements pour oublier que c'est vrai, la vie est dominée par la mort. Et Paul nous dit, tenez ferme. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Persévérons ensemble à chercher cette joie. Et je crois vraiment que Paul, il met la dimension de l'Église. Il dit qu'ensemble, encourageons-nous à viser l'éternité. Ce n'est pas seulement un encouragement individuel. Il va vraiment dire, mais regardez, prenez des modèles, encouragez-vous l'un et l'autre pour que vos vies soient placées sur l'éternité. Il y a une vraie joie lorsqu'on s'attache ensemble à la vie éternelle offerte en Jésus-Christ. Et c'est ça la joie de Pâques. Pâques, quand Jésus crucifié et qui ressuscite, il montre que nous, si nous mettons notre foi en Jésus, un jour notre corps va ressusciter. On va être à la suite de Jésus. Et c'est ce qui est beau dans Pâques, c'est qu'un jour, non seulement nous serons près de Dieu, mais nous serons dans un nouveau corps où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de malheur, et il y aura la présence de Dieu et l'harmonie offert par Dieu. Alors, je vous propose un temps d'application. On peut essayer de réfléchir comment aujourd'hui on peut s'encourager ensemble à miser sur l'éternité. La première chose, c'est que le passage nous dit, si on veut s'attacher à la vie éternelle, lire et regarder quel prix cette vie éternelle a coûté à Dieu. Quelque part, c'est ce que Paul nous dit, c'est que regardez combien notre accès à l'éternité a coûté cher à Dieu. Et je crois que si on regarde vraiment la croix, ce qu'elle nous offre, ça peut nous donner une vision plus large, ça peut nous faire prendre du recul en disant, c'est vrai, Dieu a payé tellement cher. S'il a payé tellement cher, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, un danger qui nous guette, mais aussi une vie éternelle avec lui qui peut nous être offerte. Une deuxième application, c'est regarder la vie de ceux qui s'attachent à cette vie éternelle qu'offre Jésus. Moi, j'aime m'inspirer des missionnaires. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des biographies de gens qui ont tout quitté pour Jésus. Mais je trouve que c'est toujours inspirant. C'est toujours, ça nous remet vraiment vers l'essentiel. Ça nous aide à prendre du recul des fois sur nos préoccupations, peut-être des fois superflues. Remercier Dieu régulièrement pour la vie éternelle. Voilà une application. Je crois que si on prie, on remercie Dieu pour la vie éternelle, je crois que c'est aussi un moyen de garder cette dimension dans nos têtes, dans nos cœurs. Combien de prières on fait pour la vie éternelle et combien de prières on fait pour la vie terrestre? Je ne sais pas si vous avez déjà une fois comparé. Mais je crois que c'est bien de prier en vue de cette vie éternelle. Et puis, encourager ceux qui font le pas d'investir dans les choses éternelles. Je crois que ça peut être vraiment une clé aussi, c'est de s'encourager dans l'Église. En disant, ouais, c'est super que voilà, tu investis dans l'Église, tu investis dans, financièrement, tu veux servir Dieu et tu sais que ce service, il n'est pas vain. C'est bien s'encourager dans ce sens. Et moi, je veux vraiment vous encourager aussi à investir l'Église, à investir le service pour Dieu, parce qu'il y a un impact sur l'éternité. Alors maintenant, je vous propose un petit temps de questions. Alors, je sais que peut-être vous n'avez pas trop l'habitude, mais j'aimerais vous proposer juste un petit temps où on puisse se poser des questions. Alors, peut-être qu'on va le faire... à l'oral là ensemble, sentez-vous libre de participer, mais j'aimerais vous poser ces questions là et puis qu'on puisse interagir. La première, c'est: de quoi est-ce que ta joie dépend le plus aujourd'hui? Peut-être que ça c'est intime comme question, mais est-ce que notre joie dépend de... alors elle peut dépendre de plein de choses terrestres, c'est pas mal d'avoir de la joie pour notre vie sur Terre, mais est-ce que... De quoi notre joie dépend le plus? Celle qui est la plus importante, l'objet de ma joie la plus importante. Peut-être je vais vous laisser juste ces questions et on va échanger sur la dernière question. Ma deuxième, c'est: est-ce que tu sais où ton âme ira après la mort? Est-ce que tu es sûr où est-ce que tu iras après la mort? Troisième question: comment cette croyance impacte ton quotidien? Si tu penses que tu n'iras nulle part après la mort, comment ça impacte ton quotidien? Mais si tu sais que tu iras auprès de Dieu et tu iras au paradis, comment ça impacte ton quotidien? Comment ça vous impacte? Comment cette croyance impacte notre quotidien et notre relation à Dieu? Comment ça, cette vision de l'éternité impacte notre relation à Dieu? Jésus, on veut vraiment te remercier et te louer pour ce que tu as fait. T'es un grand Dieu. T'es un grand Dieu qui n'a pas hésité à payer le prix fort pour nous chercher. Et je veux vraiment te remercier, on veut ensemble en Église te remercier pour ce cadeau de la croix qui balaye toutes nos angoisses, qui finalement nous donne une perspective toute nouvelle, une vie toute nouvelle avec des autres priorités. Et Seigneur, aide-nous à voir la vie comme tu la vois et à t'obéir, Seigneur, vraiment à comprendre que notre joie doit être vraiment d'urgence placée en toi, Seigneur. Et je te remercie pour toutes ces petites joies qu'on a sur cette terre. On sait que c'est un extrait, des bribes de ce qu'il y aura au ciel. Et on veut vraiment te prier de nous aider à ancrer cette réalité dans notre cœur. Qu'on ne soit pas influencé par le monde qui voit tout carpe diem, juste au jour le jour, sans regarder l'avenir. Nous, Seigneur, on veut voir la vie telle qu'elle est. Et Seigneur, aide-nous à nous ouvrir les yeux sur combien tu as combien tu ta vision des choses est bien meilleure, Seigneur. Et merci pour cette joie qui est pas juste psychologique ou mais c'est une vraie joie du cœur, Seigneur. C'est une vraie joie qu'on peut vivre maintenant. Et on veut se réjouir que la Pâque, Seigneur, c'est la résurrection. Si tu as vaincu la mort, tu nous donnes accès au ciel. Et on te remercie pour ça, Seigneur. Merci parce que on veut pas être on veut pas être indifférent à ce que tu as fait. Et on veut vraiment que cette croix, elle soit importante dans notre cœur. Et je te prie pour tous ceux qui n'ont pas encore fait cette décision de te suivre, Seigneur, que tu leur donnes le courage de quitter leur barque et de te suivre. Merci.